Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Léonidas Kalogeropoulos, PDG de médiation et argument, vice-président d'éthique et délégué général de l'Open Internet Project, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Philippe Martin, professeur à Sciences Po et président du Conseil d'analyse économique, président délégué, je crois qu'on dit d'ailleurs, membre du Cercle des économistes. Xavier Rago, président de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui a notamment écrit « Civiliser le capitalisme » chez Fayard. Avant de parler sur la consommation d'énergie, Xavier Rago, si on disait ben, il va falloir lisser la baisse d'impôts de production, parce qu'il y a un moment il faut faire des choix, parce que la cote d'alerte...
Encore une fois, moi je vais vous dire...
Ce que vous diriez, oui, ben...
Moi j'achète, excusez-moi ce langage, moi j'achète si jamais on lisse effectivement. C'est-à-dire que si jamais le gouvernement dit c'est pas le moment, vu le choc, d'augmenter la dette, et je baisse transitoirement... ce que j'avais prévu comme réduction d'impôts, c'est-à-dire que... Mais je m'engage à le faire sur 5 ans en sifflet, et qu'il est crédible pour le faire, je pense que ce serait une bonne politique, parce qu'on a besoin d'argent public pour gérer ce choc macroéconomique. Et il faut baisser les impôts de production, on sait que c'est une spécialité française, mais il faut... et c'est vraiment la transformation, de l'investissement dans l'industrie, avec la formation, l'éducation, c'est un paquet global qu'il faut penser. Bien, ça, il faudrait le faire. Le problème, ça renvoie toujours au même débat, c'est l'engagement sur plusieurs années du gouvernement. Il faudrait qu'on arrive à avoir des politiques sur 3, 4, 5 ans dans lesquelles le gouvernement s'engage et qui nous donnerait de la profondeur temporelle qui nous permettrait de faire les bonnes politiques plutôt que de faire des à-coups. On le fait ou on le fait pas cette année, puis on reposera la question l'année prochaine. On a besoin vraiment d'un ancrage pluriannuel des finances publiques.
Dans votre schéma de long terme, vous mettez également une réforme des retraites ?
Je laisserai le débat démocratique s'exprimer sur le sujet.
C'est ça. J'ai confiance dans la justice de mon pays.
Un mot sur les impôts de production.
Oui,
parce qu'on a Philippe pas mal Martin. Travaillé au Conseil d'analyse économique sur ces impôts. Et en effet, ils ont un impact mauvais sur la productivité, sur la compétitivité.
Moi, vous aviez publié sur la C3S, je me souviens.
Absolument. Mais c'est pour ça que moi, je pense qu'il aurait fallu éliminer la C3S plutôt que la CVAE. Parce que la C3S, c'est vraiment un impôt imbécile. C'est sur le chiffre d'affaires. Aucun pays de l'OCDE n'a d'impôt sur
un impôt imbécile, c'est vraiment très juste.
Et donc c'est une taxe sur les exportations et une subvention aux importations, c'est ce qu'on montrait. La deuxième chose, c'est que si on le fait, si on lisse la baisse, il faut pas faire justement ce qu'on avait fait, ce que le gouvernement Hollande avait fait sur la C3S, c'est-à-dire commencer par les petites entreprises et ensuite les grandes. Parce qu'on sait ce qui s'est passé, c'est qu'on s'arrête à un moment. C'est-à-dire que c'est pas populaire de baisser les impôts sur les grandes entreprises. Mmh. Et donc, du coup, on fait les petites entreprises, mais à un moment, ça cale politiquement. Donc il ne faut pas faire ça, parce que je vous rappelle que les gros exportateurs, les exportations, c'est les grosses entreprises. Donc si on veut rétablir la balance commerciale, il ne faut pas faire que des choses sur les TPE et les PME.
Ils s'appellent Catherine McGregor, Jean-Bernard Lévy, Patrick Pouyanet, respectivement les patrons d'Engie, EDF, Total Energy. Ils lancent un appel commun dans le JDD. Il s'agit d'inciter les Français à faire des économies d'énergie sans attendre. Ils parlent de réduire immédiatement notre consommation de carburant, de pétrole, d'électricité, de gaz. Effort immédiat, effort collectif, effort massif. Je ne sais pas si vous avez une réaction globale à cette prise de parole très inattendue quand même.
Non, mais je pense d'abord que cette prise de parole, elle est salutaire parce qu'elle appelle à la responsabilité et elle met l'accent sur l'absolue nécessité de baisser notre consommation énergétique et pas uniquement d'essayer de trouver une espèce de martingale fiscalo-budgétéro, je ne sais quoi, pour arriver comme par magie à vivre exactement comme avant en payant moins. Donc il y a à un moment donné où quelque chose doit se passer. Mais toujours dans ces cas-là, c'est pas mal de demander aux entreprises s'ils ont des solutions. Si elles ont des solutions, je vous en donne une parce que elle est sur la plateforme d'Entrepreneurs pour la République depuis la semaine dernière. C'est une solution qui s'appelle Garotech, développée par une entreprise qui s'appelle Gachimie, qui est un des leaders de la distribution chimique français, et qui met de l'ozone dans les laveries industrielles. Et l'ozone dans l'eau, permet de nettoyer toute l'efficacité des laveries industrielles sans chauffer l'eau. Et donc, vous économisez tout le chauffage grâce à un appareil qui est amorti dès le premier mois de sa location. Et vous vous passez totalement de tout le gaz qui, traditionnellement, chauffait. Ils en ont déjà équipé 600 laveries industrielles. Et par machine, c'est 1 million de tonnes de CO2 économisées par an. Et donc, vous multipliez ça par le nombre de laveries industrielles que vous pouvez avoir. Et à la limite, vous le généralisez en Europe. Et c'est une économie, mais tellement invraisemblable en termes de masse, qu'on se dit finalement, est-ce que ce n'est pas vers des entreprises qui ont des solutions comme celle-là qu'il faut se tourner, plutôt que de compter sur la délibération démocratique pour trouver la taxe miracle.
Mais je question de taxe pour l'instant.
Hein. Non, il n'est pas question
on
de taxe.
On est justement en train de, de faire baisser les prix, ou en tout cas d'éviter que le signal prix se manifeste.
D'accord, ou la subvention miracle. Mais en tout état de cause, je trouve que l'incitation à trouver des solutions de cette nature qui vient en rapport avec les prix qui augmentent, finalement, ça sert à ça, les prix qui augmentent. Ça sert à dire que ça devient intéressant de trouver des innovations qui permettent d'économiser l'énergie. Mais bien entendu, je crois que c'est un vieux slogan, que l'économie la moins chère, c'est celle qu'on utilise. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et il est temps, effectivement, que nous soyons collectivement devant cet objectif vital.
Bon, comment vous avez entendu, reçu cet appel, Xavier Rago, Philippe Martin, de la part des trois ténors, j'ai envie de dire, de l'énergie en France? Philippe, ça vous a... Vous êtes dit, passe quelque chose, il y a probablement un phénomène d'urgence. On se souvient de ce que disait l'Allemagne la semaine dernière avec la quasi-conviction que eux ne passaient pas l'hiver. En termes d'énergie.
On a déjà une très forte augmentation des prix du gaz et du pétrole parce que les marchés anticipent en effet qu'il va y avoir des disruptions, qu'il va y avoir des embargos dans le futur. Une partie de l'augmentation des prix vient du fait que il y a cette anticipation sur un embargo futur.
Ce qui veut dire peut-être pas touché le plafond des prix, que ce soit sur le pétrole
certainement pas.
Alors, kilowattheure
on rappelle que
gaz,
là, au G7, il y a une discussion maintenant sur un possible price cap, un plafonnement des prix du pétrole qu'on paierait à la Russie. Il y avait eu des discussions, et d'ailleurs la Commission européenne est enfin en train de faire un travail technique sur la possibilité aussi de faire un plafonnement des prix du gaz payé à la Russie. Ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que les sanctions énergétiques qu'on a fait contre la Russie, qui sont quand même à l'origine de tout ça, de toutes ces discussions, ont quand même été un échec. C'est-à-dire que si on regarde les ressources budgétaires de la Russie qui viennent complètement des exportations, elles ont augmenté de 30%. D'accord ? Donc on paye plus cher aujourd'hui. Donc les sanctions, elles ont eu pour effet, les sanctions énergétiques, elles ont eu pour effet, parce qu'on annonce des choses, et donc ça fait augmenter les prix, mais on ne fait rien au moment de l'annonce. Concrètement, il y a toujours des exportations de gaz et de pétrole russe vers l'Union européenne, et donc on fait augmenter les prix immédiatement par des effets d'annonce. On dit qu'il va y avoir un embargo sur le pétrole dans 6 mois, ce qui fait augmenter les recettes budgétaires pour la Russie, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on voulait, et ça a un coût très élevé immédiat pour l'Europe. Donc, moi, je pense qu'en effet, il faut reprendre la main. C'est-à-dire qu'on est complètement dans une situation de réaction passive par rapport aux Russes sur cette question énergétique. Et donc, je suis assez favorable à réfléchir, par exemple, à un single buyer, c'est-à-dire un acheteur unique par rapport à la Russie. Il faut reprendre du pouvoir de marché. Enfin, je veux dire, c'est évident que la Russie manipule les prix et peut-être, en effet, un plafonnement de prix. Mais il faut le faire avec tous les Européens, avec les Américains, avec les Japonais. Donc, je pense que, de ce point de vue, c'est en train de se passer au G7, par exemple, ce qui est aussi en train de se passer sur les sanctions, sur les assureurs, parce que évidemment c'est très important de segmenter le marché. Il ne faut pas que la Russie puisse aller revendre son pétrole ou son gaz ailleurs. Donc il faut reprendre la main. Il faut avoir, il ne faut pas être naïf par rapport évidemment aux Russes, mais en effet pour être crédible, il faut avoir des mesures de rationnement sur la table. Et c'est ce que font les Allemands. Apparemment, c'est ce qu'on fait aussi en France. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra dire qui est rationné s'il n'y a plus de gaz. Et on commencera évidemment par les entreprises. Et ça se termine. Et c'est les ménages qu'on coupera en dernier. Mais il faut le mettre sur la table. Il faut dire, et je pense que dans le débat public, il faut dire qui on va rationner d'abord, comment on va le faire, etc. Il faut qu'on comprenne en effet que l'hiver va être difficile.
Alors après, est-ce qu'il faut continuer à subventionner des prix, casser les signal prix en espérant que la consommation se régule et que les comportements changent?
Parce alors, les prix
pourquoi
sont,
est-ce que la consommation
les prix sont déjà très sont élevés.
Il y a un signal prix, il est déjà élevé.
Le signal prix est déjà très élevé, mais c'est pour ça que je disais surtout ne pas baisser la TVA et les impôts sur l'énergie.
Xavier Rago, par rapport à ça, si vous voulez ajouter quelque chose.
Deux choses. Effectivement, les prix sont élevés. Je pense qu'il faut qu'on le répète parce que sinon, nos auditeurs ne vont pas comprendre. Ils devraient être encore plus élevés vu la situation internationale, mais là, ils sont déjà élevés. Et donc, je pense que les incitations pour faire les innovations, les entreprises et faire les économies d'énergie, aller vers la sobriété sont quand même assez présentes. Là, ce qu'a dit Philippe Martin est très important. On n'en discute pas assez. Maintenant, il faut penser le prix que l'on paye pour le gaz et le pétrole comme des objets aussi politiques parce qu'on est en train de subventionner une puissance qui mène la guerre en Ukraine. Et là, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de subventionner subventionner le budget russe pour des montants de plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est simplement, c'est un non-sens. C'est un non-sens économique, mais politique. Moi, je pense que Poutine se disait les Européens, ils ne sont pas bêtes pour faire des sanctions qui me rendront plus riche et les rendront plus pauvres. Et finalement, on le fait quand même. Bon, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à trouver une coordination des Européens sur le gaz. Sur le gaz, c'est peut-être plus facile une coordination européenne et internationale sur le pétrole pour avancer sur ce sujet-là avec les pays qui sont les plus moteurs sur le sujet. Je pense que c'est essentiel. Et après, on parlera de tarifs, de taxes, prix maximum, les outils économiques. Il faudra aussi que ce soit compatible avec le droit international. Donc, il y a des petites choses à surréfléchir. Mais déjà, il faut la volonté politique.
C'est terrible cette histoire de sanctions contre la Russie, parce qu'effectivement on se rend compte que c'est nous qui payons en fait les sanctions qu'on a imposées aux Russes, et en même temps est-il possible de ne rien faire?
Il y a d'autres manières de faire.
La forme des sanctions, c'est-à-dire annoncer qu'on va faire un embargo dans 6 mois et ne rien faire aujourd'hui, ça fait augmenter immédiatement le prix. Et donc c'est ça qui fait qu'on paye plus cher et qu'on verse davantage d'argent aux Russes.
Et d'ailleurs, même tactiquement, passer son temps à annoncer ce que l'on va faire demain, c'est pas forcément militairement la meilleure manière de faire. Enfin, je veux dire, on ferait mieux de se préparer et de le faire du jour au lendemain, alors que Poutine n'hésite pas, bien entendu, en 48 heures, à couper le gaz à tel ou tel. Donc effectivement, nous, on dirait qu'on gère davantage la communication et l'opinion publique chez nous pour dire qu'on fait quelque chose. Mais comme le dit très bien Philippe Martin, on le fait pas tout de suite. Donc les mois que nous avons entre le moment de l'annonce et le moment de l'exécution, c'est des mois ruineux pour nous et très enrichissants pour la puissance attaquante.
Xavier Rago, oui.
Un point, je pense qu'il faudrait trouver les moyens dès aujourd'hui, sans être catastrophiste, de mettre dans le débat public des scénarios soit d'un embargo, soit d'un arrêt unilatéral de fourniture du gaz par les Russes, et qu'on voit comment, dans cet état du monde catastrophiste, mais néanmoins possible au moment où on se parle, on se prépare. Et là, la sobriété, ce ne sera pas des petits détails, ce sera des choses importantes en termes de réduction du chauffage, d'arrêt possible de certains événements sportifs, d'arrêt de certaines entreprises. Enfin, je pense qu'il faut, Européens, qu'on se prépare à des éléments très catastrophistes dans notre quotidien, s'y préparer dès aujourd'hui pour l'hiver à venir et peut-être le début de l'année 2023.
C'était Guy Mollet en 56, après la crise de Suez. Il est président du Conseil et Jean-Marc Daniel rappelait qu'il en appelle d'abord au civisme. Et si le civisme ne suffisait pas, on passait au cynisme. Et on est passé au cynisme, hausse des prix des carburants à l'époque,
et
ticket de rationnement.
Je vois pas, ça manque de planification, entre guillemets, au sens quasiment militaire du terme de cet objet-là. Il faut se préparer.
Mais il faudra des règles de rationnement. Enfin, les Allemands les ont mis sur la table, et on sait qui sera coupé en premier. Et Bercy, on le sait, travaille évidemment sur le sujet. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut reprendre l'initiative. Aujourd'hui, c'est Poutine qui a complètement l'initiative sur à la fois les quantités et les prix des exportations. Donc c'est pour ça que même si on n'aime pas en général les gels de prix, il faut évidemment, vis-à-vis de Poutine, par exemple, moi je pense qu'un price cap sur les prix du gaz, et il est possible en plus, puisque les contrats gaziers avec la Russie, c'est des contrats à long terme, c'est ce qu'on appelle des contrats take or pay, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez payer ce que vous avez commandé, donc vous ne pouvez pas réduire les quantités, mais en revanche, le prix, il est indexé sur le prix spot, et rien n'interdit de dire que le prix spot, il ne peut pas aller aujourd'hui, on est à 120, 130 euros mégawattheure, on pourrait dire, il ne pourra pas aller au-delà de 120, Et ça, déjà, ça fait baisser les prix. Parce que déjà, si on dit au marché, de toute façon, ça ne peut pas aller au-delà de 120, le prix peut déjà baisser aujourd'hui, puisqu'il y a une partie de la spéculation ou des achats qui sont liés au fait que peut-être demain, il sera 200, 250. Mais pour ça, il faut être crédible. C'est-à-dire, il faut dire, en effet, s'il y a une demande excédentaire, eh bien, il y aura du rationnement. Et on va vous dire comment on va rationner les fournitures de gaz.
On a un plan en France qui s'appelle EcoWatt, qui est piloté par RTE, où il y a les différentes étapes jusqu'au blackout, effectivement, lorsqu'on a des problèmes de
fournitures. C'est les ménages qu'on coupe en dernier.
Ce sont les ménages qu'on coupe en dernier. Alors, il y a d'autres mesures qui sont en train d'être évoquées. Par exemple, décaler les horaires de début de journée et de fin de journée pour éviter les pics de consommation du matin, les pics de consommation du soir. Recourir au télétravail massivement. On a observé que c'était une assez belle économie d'électricité.
Baisse de la vitesse des voitures sur les autoroutes.
Ah oui, mais ça, si vous faites ce choix politiquement...
C'est un gros effet. Ouais. L'Agence internationale de l'énergie...
Je me souviens très bien.
...qui a toute une
batterie de choses.
Batterie de choses qui sont très claires. Et à chaque fois, ils disent ce que ça donne. Hein.
C'est colossal.
Mais effectivement, ça repose des sujets que l'on connaît. La question des transports dans les zones rurales est une question d'un déséquilibre face au travail qui est majeur. Dans nos grandes agglomérations, en Île-de-France, on a des transports en commun. Il est abordable, aisé. Enfin, en tous les cas, on a des solutions. Lorsque l'on est dans une grande partie du territoire, aller travailler, c'est très difficile de le faire sans recourir à sa voiture. Et face à cela, il y a probablement aussi une réflexion essentielle à avoir, que l'on soit en période de guerre ou pas.
Xavier Rago, la récession est-elle la seule solution pour sortir de cette période d'inflation ? Les marchés semblent convaincus aux États-Unis que la Fed va aller jusqu'au bout du bout, qu'elle va faire entrer l'économie américaine en récession. D'ailleurs, c'est une piste qui était quasi défendue par Mathilde Lemoine de chez Rothschild, qui écrivait dans Les Échos vendredi qu'il fallait monter les taux, que c'était une bonne nouvelle, que la Fed a raison de freiner l'inflation, car il faut rétablir la vérité des prix, quitte à pousser jusqu'à la récession. Et c'est ce matin, dans les colonnes de l'Opinion, où le chef économiste de Carmignac, Raphaël Gaillardot, nous dit « La Fed n'est plus l'ami des marchés. Ils sont en train de le comprendre. » Et c'est une vraie question. Est-ce qu'il va falloir aux États-Unis, et peut-être pas qu'aux États-Unis, aller jusqu'à la récession ?
Pour moi, c'est un échec intellectuel si on ne peut pas faire autrement. Deux choses. Déjà, les taux vont augmenter parce que l'inflation augmente. Bon, ça, c'est normal et c'est souhaitable. Ils augmentent moins que l'inflation, d'ailleurs. Donc, les taux d'intérêt réels baissent.
Négatif, oui.
C'est normal. Donc, par exemple, la Banque centrale fait des hausses des taux. Tout ça, c'est normal. La question suscitée par ce débat, est-ce qu'il faut que les taux augmentent beaucoup plus que l'inflation pour augmenter le coût d'accès au crédit et stopper la consommation, stopper l'investissement et faire que la demande d'activité réduise, ce qui va peser négativement sur l'activité et donc sur les prix. On est en train de dire que pour geler la dynamique inflationniste, on va détruire des ressources dans l'économie. C'est ça une récession.
Oui, c'est ça une récession.
Alors qu'on a besoin de cet argent pour rembourser la dette publique. Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus intelligent ? Et c'est un débat dans les économistes. Et de dire, plutôt que de tuer l'activité en augmentant les taux et de gâcher des ressources, c'est peut-être le moment de ralentir l'économie en trouvant un moyen de ralentir la demande en prenant de l'argent pour réduire la dépense publique. C'est le moment, et je sais que mon discours va paraître scandaleux par rapport à ce qu'on a dit, mais c'est le moment aux États-Unis d'augmenter les impôts. C'est le moment aux États-Unis d'augmenter les impôts pour réduire la dette publique et calmer l'activité de l'économie, non pas en rationnant le crédit, mais en rationnant l'activité par les impôts. Et ce discours, c'est tout ce que... Un économiste dans son bureau, c'est ce qu'il ferait. Mais le débat politique complètement coincé, complètement hystérique sur la question des impôts, parce que là, je dis une hausse d'impôts temporaire. Hein, vous voyez, toujours cette notion de temporalité. Nous avons temporaire pour calmer l'économie, et après on baisse les impôts quand on revient à 5% d'inflation.
On a 7 minutes 50, vous
pouvez utilise, réagir. C'est le moment d'utiliser l'outil fiscal pour atteindre deux oiseaux avec la même pierre, un, ralentir l'économie, et deux, réduire la dette publique. Le blocage politique fait que... Alors, dans le débat, Il y a eu Blanchard, il y a eu Sherman.
Hein.
Oui, les États-Unis. Mais voilà, moi, je vais sur les États-Unis parce qu'on anticipe le débat européen. Donc, Blanchard, Sherman, etc., c'est un peu dans le débat. Mais le blocage politique, le blocage, on voit aux États-Unis entre républicains et démocrates, fait que ces débats-là, avec l'hystérisation sur certains sujets, notamment sur les impôts, ne passera pas. Donc, peut-être dans le monde terrible dans lequel on est, on va créer du chômage, on va détruire des ressources dans l'économie pour contrôler l'inflation avec l'outil qui est peut-être pas le bon dans la situation dans laquelle on est.
Ah, c'est un sacré débat que vous ouvrez là.
Oui,
je l'avais pas posé dans ces termes. Je l'avais pas posé dans ces termes. Parce que, après, bon, on peut dire qu'on parle des États-Unis et que chez nous c'est différent. Il y a quand même souvent quelques effets caméléons de ce qui se passe aux États-Unis. Ça peut quand même s'exporter parfois à 5000 km, traverser l'océan et se prendre corps chez nous.
Mais je trouve ça,
Leonidas Kalogeropoulos.
Je trouve très intéressante l'approche de Xavier Rabault sur la temporalité des mesures, qui me semble être la bonne approche, avec juste une difficulté que vous avez évoquée, qui est une difficulté politique. C'est que généralement, quand on a des taxes temporaires, parce que, enfin, on a connu des taxes temporaires, vous les connaissez comme moi, elles deviennent éternelles. Mais la question de capacité à venir piloter l'économie en ayant des mesures qui, notamment sur l'inflation, mais celle que vous évoquez sur la fiscalité me semble effectivement assez intéressante au regard de ce que serait l'autre hypothèse qui est d'augmentation des taux. Je ne vois pas encore la maturation politique pour accepter qu'il puisse y avoir 6 mois d'augmentation d'impôts alors que c'est probablement des mesures de cette nature qui pourraient avoir un impact. Mais je trouve ça très intéressant et je trouve que si on pouvait avoir un débat politique sur ces approches temporelles, ça serait très précieux.
C'est vrai que le temporaire, quand on parle de ce genre de choses chez nous, c'est plus compliqué.
Oui,
enfin, les Allemands avaient dit on va baisser temporairement la TVA et ça a été temporaire. Ils l'ont monté à la date prévue. D'ailleurs, ça n'a pas eu du tout les effets espérés, comme quoi ces baisses de TVA pour rendre du pouvoir d'achat, ça ne marche pas à tous les coups. C'est pour ça que je suis toujours un peu inquiet quand je vois toutes ces mesures qu'on est en train de mettre en place, inflation, loyer. Regardez, prenez un exemple. Le ticket de métro, il est subventionné à 75%. Vous croyez qu'aujourd'hui, on pourra remettre la vérité du prix sur le ticket de métro ? À mon avis, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Comment vous entendez cette question d'appuyer sur la politique monétaire jusqu'à prendre le risque de la récession, ou même la souhaiter, et la façon dont Xavier Rabault voyait les choses différemment ?
Non, mais je suis assez d'accord. Enfin, il faut se rappeler qu'une des raisons de l'inflation aux États-Unis, c'est qu'on a eu un stimulus fiscal très important sous Biden, quasiment 10 points de PIB. Et c'est d'ailleurs une partie de ce qui explique la différence d'inflation aux États-Unis et en Europe. C'est-à-dire qu'eux, ils ont mis... On se plaignait tout à l'heure qu'il y a trop de dépenses publiques ou de stimulus en Europe, mais aux États-Unis, ça a été bien plus. Et donc, ça a été le débat lancé en particulier par Larry Summers et Olivier Blanchard en disant on va trop loin quantitativement. Il fallait faire sous Covid, il fallait faire cette relance fiscale, mais on allait trop loin. Le débat en Europe est quand même un peu différent. Et là, l'inflation en Europe, elle ne vient pas du fait qu'on a un stimulus fiscal trop important, elle vient complètement de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la question énergétique. Ce qui est vrai, c'est qu'en fait, on a quand même un débat intellectuel un peu étonnant. C'est-à-dire qu'en Europe, en particulier, si on pense, la politique monétaire s'occupe de faire du budgétaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
c'est
la réduction des spreads pour permettre une politique budgétaire, enfin réduire le coût de la politique budgétaire. Et la politique budgétaire, en faisant ses rabais, etc., essaye de diminuer l'inflation. C'est-à-dire qu'on a totalement renversé les outils de politique macroéconomique où normalement c'est la politique monétaire qui s'occupe d'inflation et la politique budgétaire qui s'occupe de croissance, et là c'est maintenant exactement l'inverse. Donc je pense que il faut qu'on revienne à une manière peut-être un peu plus traditionnelle de faire les choses. Alors peut-être que dans une situation exceptionnelle, on peut inverser les rôles de la politique budgétaire et de la politique monétaire, mais je trouve que ça pose quand même pas mal de questions de là où l'outil est le plus efficace. Et aux États-Unis, je pense quand même, alors c'est là où je suis peut-être en désaccord avec Xavier, je pense quand même que la politique monétaire, elle doit en effet se concentrer sur la question de l'inflation, et donc il doit y avoir une augmentation des taux d'intérêt. Si elle est suffisamment crédible, ça signifie qu'il n'y aura pas de récession qui sera créée du fait de l'augmentation des taux, parce que justement, on va avoir une baisse rapide du taux d'inflation et des anticipations en particulier d'inflation.
Mais ce serait le pari de la récession express.
Oui, ou même d'une augmentation des taux qui n'aurait pas d'impact trop important sur l'activité. À ce stade, moi, je crois que c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'économistes et de conjoncturistes qui pensent qu'on va avoir du mal à éviter une récession aux États-Unis. Et ce qui est vrai, c'est que s'il y a une forte récession aux États-Unis, l'Europe aura du mal à y échapper parce que il y aura le choc américain, le choc de l'augmentation des taux à long terme en Europe, le choc évidemment de l'augmentation des prix de l'énergie. Il y a un choc chinois aussi. Tout ça mis bout à bout, je pense que ce sera difficile de ne pas avoir un effet de contagion en Europe.
Xavier Rago, vous qui rappelez ce matin que si on écarte l'acquis de croissance de l'année 2021, celle qui est en train de se dérouler sous nos yeux en glissement annuel, elle est à peu près autour de 0 ou de 0,5.
Voilà, hein, c'est vrai. C'est pas une récession, mais c'est de la stagnation.
Allez-y Xavier Rago, on a 1 minute 30, là ce sera vraiment
très,
pour conclure.
Très vite. Je pense que notre génération d'observateurs, il faut qu'on apprenne de la politique économique de ces grandes crises. Et moi, il y a quelque chose que j'ai appris. Quand j'ai vu ce stimulus américain aussi élevé, 10 points de PIB, j'ai dit, je le pensais, c'est pas grave, arrosons de liquidités, grandes incertitudes crise Covid, les ménages auront de l'épargne, l'État sera endetté, il y aura une croissance d'après-crise si on fait trop, il y aura de l'inflation, ça va réduire la dette sur PIB, et si on a trop, on pourra toujours récupérer de l'argent avec des petites hausses d'impôts futures qui permettront de se désendetter et de calmer l'économie. Ça, c'était mon scénario qui faisait que finalement, trop, c'était pas trop grave. Là, je me suis trompé. C'est qu'on n'est pas capable de faire cette hausse d'impôts après. Et donc, on peut utiliser un outil, encore une fois, inapproprié, qui était la politique monétaire, et on va créer... sur le soft landing, le scénario, c'est possible, si jamais vraiment ils arrivent à augmenter les taux juste ce qu'il faut pour éviter une récession. Malheureusement, ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc, on va voir. S'ils y arrivent, chapeau. Mais là, on peut très bien faire 1, 2, 3% de taux de chômage en plus, distribuer des ressources, faire augmenter le ratio dette sur PIB pour des mauvaises raisons. Donc, peut-être qu'on a fait trop avant. Et donc, pour la crise future, il faudra bien calibrer les mesures de soutien à l'économie pour ne pas trop en faire.
Tirons les leçons de ce que nous vivons. Juste le mot de la fin, c'est fini, Léonie.
Volontiers, un mot. Toutes ces mesures que l'on a annoncées sur l'inflation, soit, mais il y a tellement d'offres d'emploi non pourvues. Tellement de déséquilibre constaté sur le fait que nous n'ayons pas atteint le plein emploi alors qu'il y a des emplois vacants, que si on n'a pas, en même temps que toutes ces mesures, des mesures d'incitation au retour à l'emploi, globalement, je crois que nous allons dans une mauvaise voie parce que on a l'État qui vient au secours de l'économie et des acteurs économiques alors qu'ils ne se prêtent pas suffisamment en main.
Léonidas Kalogiropoulos, Philippe Martin, Xavier Rago, rendez-vous demain à 9h.